de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Magicien, voyeur. Henri Michaud, voyeur, magicien, mais aussi chercheur. Comme en marge de l'œuvre majeure, Chemin cherché, chemin perdu, transgression, publié en 1982 par Robert Bresson, révèle particulièrement la recherche, en effet, d'une autre évolution qu'aurait pris l'histoire dite naturelle, Ecce Homo Evolutionis. Quatrième et dernière émission maintenant avec Misérable miracle, connaissance par les gouffres, l'infini turbulent. La parole, projetée parmi les éléments naturels, fait maintenant de notre nuit une transparence, celle de la pensée et du merveilleux normal.
La communauté radiophonique des programmes de langue française vous invite à écouter une coproduction du troisième programme de la RTB et de l'ORTF France Culture. Henri Michaud, une émission de Arlette Dupont et Henri Vaume, réalisée par Raoul Auclair. Aujourd'hui, Savoir, musicienne de la vérité, avec Roger Blin, Michel Bouquet, Pierre Delbon, Philippe Mercier, Philippe Lodenbach et Françoise Fechter. Assistant, Paul Bram.
Je ne peux pas me reposer. Ma vie est une insomnie. Je ne travaille pas, je ne dors pas, je fais de l'insomnie. Tantôt mon âme est debout sur mon corps couché, tantôt mon âme couchée sur mon corps debout. Mais jamais il n'y a sommeil pour moi, ma colonne vertébrale à sa veilleuse, impossible de l'éteindre. Ne serait-ce pas la prudence qui me tient éveillé, car cherchant, cherchant et cherchant, c'est dans tout, indifféremment, que j'ai chance de trouver ce que je cherche, puisque ce que je cherche, je ne le sais.
Ces phrases que Michaud écrivit dans « Qui je fus » en 1927 pourraient servir d'exergue à toute son œuvre en même temps qu'elles en donnent une clé. Cet hérétique qui se dirige toujours ailleurs, qui aspire à la magie, qui écrit, comme il dit, pour secouer le figé et l'assis, est en vérité un chercheur, au sens où on l'entend d'un homme de science.
La pensée de Michaud est toujours en incursion.
Penser, plutôt agir sur ma machine à être et à penser, pour me trouver en situation de pouvoir penser nouvellement, d'avoir des possibilités de penser vraiment neuves. Dans ce sens, je voudrais avoir fait de la pensée expérimentale.
Avec Misérable miracle, une nouvelle tentative commence, un essai à tous les sens du mot.
Ceci est une exploration, par les mots, les signes, les dessins. La mescaline est l'explorer.
Quatre livres rendront compte à partir de 1956 des rencontres de Michaud avec la drogue. Misérable miracle en est le premier. Successivement viendront à l'heure, en 1957, l'infini turbulent, en 1959, paix dans les brisements, en 1961 enfin, connaissance par les gouffres. Dans ce dernier ouvrage, Michaud précise:
l'auteur du présent écrit a depuis 5 ans expérimenté la plupart des démolisseurs de l'esprit et de la personne que sont les drogues hallucinogènes, l'acide lysergique, la psilocybine, une 20aine de fois, seul ou en mélange, à des doses variées, non spécialement pour en jouir, surtout pour les surprendre, pour surprendre des mystères ailleurs cachés.
Thank you.
lorsqu'il écrit « Misérable miracle », la drogue, ce n'est pas la première fois que Michaud la rencontre.
J'ai dû, il y a 25 ans au plus, essayer 7 ou 8 fois de l'éther, 1 fois du laudanum et 2 fois l'affreux alcool.
La Nuit remue, publiée en 1934, contient un premier texte descriptif sur les effets hallucinogènes de l'éther.
J'ai fait une expérience, la voici. Comme ce sont les bruits qui ont la plus grande importance dans l'ivresse éthérée, les gestes un peu aussi, au fort de l'ivresse, si vous faites de la lumière et que vous promeniez les regards autour de vous dans la chambre ou sur les images d'une revue illustrée, tout est sensiblement pareil, on y prend un intérêt à peine moindre. Il faut éteindre pour que la révélation de l'éther s'accomplisse. Je préparais quelques disques, en mis un sur le phonographe, pris de l'éther et éteignis. Le disque reproduisait la voix de Marianne Oswald chantant une chanson moderne, Surabaya Johnny. D'abord, rien de changé. J'aspirais davantage. Et tout à coup, sa voix entra dans la chambre, exprimant enfin pour de bon la vérité de son amour malheureux et qui en valait la peine. Qui s'adressait à moi, que je devais comprendre. Le morceau suivit son développement sans se presser, avec un accent extraordinaire. Quoique ce disque d'un petit format ne soit pas bien long, il mit un temps considérable à se laisser parcourir en entier par l'aiguille, temps qui me permit de passer par divers états.
C'est Raymond Bellour qui fait remarquer que si la drogue est un imaginaire, Michaud en rend compte au nom de la réalité. Rien de moins complaisant, de plus étranger à la création lyrique, au souffle idéalisé de l'épopée toxicomaniaque, que ce livre qui se termine par ces mots.
Aux amateurs de perspectives uniques, la tentation pourrait venir de juger dorénavant l'ensemble de mes écrits comme l'œuvre d'un drogué. Je regrette, je suis plutôt du type buveur d'eau. Jamais d'alcool, pas d'excitant, et depuis des années pas de café, de tabac, de thé. De loin en loin du vin et peu. Depuis toujours et de tout ce qui se prend, peu. Prendre et s'abstenir, surtout s'abstenir. La fatigue est ma drogue, si l'on veut savoir.
En cela, l'entreprise est nouvelle. Les grands toxicomanes de la littérature, de Charles Baudelaire à William Burroughs et au poète Beats, en passant par Coleridge, Quincy, Artaud, pourchassent un rêve démiurgique, défient le ciel, instaurent le désordre, trompent la réalité. Michaud vise seulement, ou plus ambitieusement, à une connaissance. Ce sont des tranches de savoir différentes du savoir commun que son exploration lui impose.
Du haschich, il dira.
Le haschich me restructure différemment.
Avec le haschich en moi, je suis faucon de chasse. Si mon regard passe de façon circulaire, ce sera une seule fois, comme on fait un rapide tour d'horizon qui ne sera pas recommencé. Nous ne sommes pas pour l'éparpillement. Nous cherchons un objet pour remonter une piste. Si c'est un visage, on remontera par lui jusqu'au bout du monde. Plus rien ne nous en distraira. D'un regard qui pense, qui traverse la tête de l'autre. Nous n'avons aucune fébrilité. Ce dedans de la tête, cet endroit de la métaphysique, du calcul, c'est peut-être la seule chose que je regrette de ce haschich à peine connu et que décidément j'abandonne. Cet endroit que je ne pourrais que désigner du doigt sur mon crâne en ajoutant « c'est là, 5 à 6 centimètres à l'intérieur ». Cela qui ne vit qu'alors et qui n'avait jamais vécu auparavant, et qui est sinon une faculté, du moins une fonction, et qui fait que même affaibli par la drogue, je sais que je suis à un centre, que ce centre vivant en moi me donne le droit et l'aisance de regarder, droit dans les yeux, n'importe qui, car je vais au-delà des traits. Sitôt le haschich éteint en moi, cela disparaît, et je suis obligé de revenir à la périphérie, à la croûte, l'autre centre définitivement endormi.
Ici, on ne parle plus de paradis artificiel.
Les drogues nous ennuient avec leur paradis, qu'elles nous donnent plutôt un peu de savoir. Nous ne sommes pas un siècle à paradis.
À l'heure du misérable miracle, Michaud, désabusé, critique, résiste à la drogue.
La mescaline et moi, nous étions souvent plus en lutte qu'ensemble. J'étais secoué, cassé, mais je ne marchais pas. Du clinquant, son spectacle. En plus, il suffisait de se découvrir les yeux pour ne plus rien voir de la sotte féerie. L'inharmonieuse mescaline, alcaloïde tiré du peyote qui en contient 6, avait bien l'air d'un robot. Elle savait seulement faire certaines choses. Je m'étais pourtant préparé à admirer. J'étais venu confiant. Ce jour-là, on brassa mes cellules, on les secoua, les sabota, les mit en convulsion. On leur faisait des caresses, on se livrait dessus à des arrachements. On me voulait tout consentant. Pour se plaire à une drogue, il faut aimer être sujet. Moi, je me sentais trop de corvée.
Quatre expériences successives de la mescaline composent la trame, si l'on peut dire, de ce misérable miracle. Michaud mêle des textes, des dessins, des graphismes. Il invente une écriture neuve, une typographie originale. La page comporte une grande marge blanche, occupée çà et là par des espèces de titres, des raccourcis plutôt, dira-t-il. Il faut rendre compte à la fois de l'accélération du sentir, de la multiplicité des apparitions, de la forme de leur développement et de la distance que le sujet passif qui assiste à leur invasion met entre elle et lui.
À la quatrième expérience, pourtant, une erreur de calcul dans la dose absorbée plonge le poète au sein de l'atroce. Un peu plus, et c'est la schizophrénie.
Ce premier document clinique s'achève sans autre assurance que celle du mensonge ou du vertige. Ce qu'Yvon Bellava l'appellera un gâchis psychiatrique.
Mais un an plus tard, pourtant, Michaud publie « L'infini turbulent ». Il a recommencé.
On est entré dans une zone de choc, phénomène des foules, mais infime, infiniment houleuse. Les yeux fermés, on a des visions intérieures, des milliers et des milliers de points microscopiques fulgurants, d'éblouissants diamants, des éclairs pour microbes, des palais aux tourelles innombrables qui filent en l'air sous une pression inconnue, des arabesques, des festons, de la foire, de l'extrémisme dans la lumière qui, éclatante, vous vrille les nerfs, de l'extrémisme dans les couleurs qui vous mordent, vous assaillent, et, brutales, blessantes, leurs associations. Du tremblement dans les images, du va-et-vient, une optique grisante.
L'expérience sera réussie. Les textes mêmes des quatre livres consacrés par Michaud à la description de l'autre monde où accède le patient sont significatifs.
L'infini turbulent remet en cause les conclusions du misérable miracle. Il ouvre la voie à la paix dans les brisements, puis à cette connaissance par les gouffres qui était bien l'objectif reconnu, désiré d'une telle entreprise.
Mon étude a commencé de la sorte. Fidèle au phénomène, j'ai considéré le spectacle afin qu'il m'instruise. Elle contient cependant 3 transes inattendues. Mon instruction est allée en effet au-delà de ce dont je pensais être instruit. Même là, j'ai d'abord fait la fourmi qui, le nid bousculé, ne perd pas ses œufs et les emporte avec elle. Il a pourtant fallu les lâcher. Et me lâcher moi-même. Et tout n'a pas fini de rassurante façon. Depuis toujours révolté par les portes interdites et les réservées aux initiés, Là pourtant, j'ai su de moi-même qu'il ne faut pas. Et surtout, pourquoi il ne faut pas parler davantage. L'arme surhumaine aux multiples tranchants ne peut être livrée. Certaines expériences pourtant doivent être communiquées. À elle de montrer petit à petit, chaotiquement, par surprise, comme il est advenu, l'irrégulier et difficile apprentissage où les éléments d'un monde, d'une connaissance ou d'un comportement nouveau défilent devant qui saura les voir ou les reconnaître.
Michaud est allé plus loin, jusqu'à ce point où sa résistance a cédé. Il n'est plus à présent ni le contradicteur véhément qui s'insurge, ni le lutteur sceptique. Il accepte la découverte attendue de l'infini. Avec des doses de mescaline plus faibles que dans « Misérable miracle », à la troisième fois, la chose se produit.
L'incroyable, le désiré désespérément depuis l'enfance, l'exclu apparemment que je pensais que moi je ne verrais jamais, l'inouï, l'inaccessible, le trop beau, le sublime interdit à moi, est arrivé. J'ai vu les milliers de dieux. J'ai reçu le cadeau émerveillant. À moi, sans foi, sans savoir la foi que je pouvais avoir peut-être, ils sont apparus. Ils étaient là, présents, plus présents que n'importe quoi que j'ai jamais regardé. Et c'était impossible, et je le savais, et pourtant ils étaient là, rangés par centaines les uns à côté des autres. Mais des milliers à peine perceptibles suivaient, et bien plus que des milliers, une infinité. Elles étaient là, ces personnes calmes, nobles, suspendues en l'air par une lévitation qui paraissait naturelle, très légèrement mobiles, ou plutôt animées sur place. Elles, ces personnes divines, et moi, seuls en présence. Dans quelque chose comme de la reconnaissance, j'étais à elles. Mais enfin, me dira-t-on, qu'est-ce que je croyais? Je réponds, qu'avais-je à faire de croire, puisqu'ils étaient là?
On se souviendra que les premiers goûts littéraires de Michaud l'avaient porté vers Saint-Jean de la Croix et Ruysbroeck l'admirable. À la limite, l'infini turbulent ressemble à l'extase mystique. À partir de l'infini turbulent, c'est cette expérience autre que Michaud va décrire.
La mescaline refuse l'apaisement du fini que l'homme savant en l'art des bornes sait si bien trouver.
Plus de bornes, un autre temps. Un autre espace, la totalité du monde déployée dans un mouvement perpétuel, l'intensité non calculable.
On est envahi de superlatifs, on étouffe de superlatifs, on hurlerait des superlatifs, on est immense et rayonnant en superlatifs, des plus grands, des plus extraordinaires, on en est insatiable, on vit superlativement. On sent que ce qu'on va sentir, quoi qu'on ne le connaisse pas encore, sera plus superlativement encore rendu vers le superlatif, nécessitant encore plus le superlatif. Un superlatif, non comme les autres, un superlatif des virtualités, un superlatif de l'inconnu, un absolu superlatif.
Jamais Michaud n'a été si poreux, si débandé, si prêt à recevoir la grâce du savoir. Le domaine de la foi, voudrait-il même dire de la confiance, pour éviter l'ambiguïté du terme, s'ouvre à lui. Mais attention, il a ses règles, sa discipline, ses exigences inflexiblement dressées contre l'expérimentateur critique et peut-être incroyant.
Il faut de toute nécessité se présenter bien à l'infini. Pas seulement comme il est prescrit, après jeûne, continence, abstention de toute distraction. Pour arriver à faire de l'intraitable agitatrice, de la démentielle infinisante, une alliée. Il faut à peu près les mêmes dispositions qui se trouvent indiquées dans le bardo Todol pour le voyage dont on ne revient pas, celles
que selon nombre d'enseignements traditionnels, il faut pour affronter les puissances occultes. Il faut y aller presque comme un prêtre. Et peut-être ne l'aurais-je jamais trouvé, et en serais-je resté à mon premier savoir d'observateur, si une fièvre opportune n'était venue me donner ou me faciliter la soumission et l'égalité intérieure nécessaire que je n'avais pas eue jusque-là, et une certaine exaltation.
À ce stade, il faut dissocier les deux démarches de Michaud. Encore est-ce l'originalité de ces quatre livres de les avoir saisis dans le même mouvement, mais ces deux démarches sont en même temps contradictoires.
L'une d'elles conduit Michaud à éprouver réellement l'extase mystique sans calcul ni restriction mentale. On rappelait tout à l'heure les lectures du poète adolescent, mais adulte, il fut aussi ce voyageur séduit dans « Un barbare en Asie » par les mystiques orientales. Et il anima aussi pendant quelque temps la revue Hermès à ses débuts. On ne peut le refuser, cette connaissance mystérieuse auquel le poète se réfère si souvent et dont il dévoile les modes de manifestation mais non le contenu, cette connaissance se meut dans l'univers du divin et du démoniaque.
En commençant son expérience, Michaud écrivait
« Je me propose d'explorer la médiocre condition humaine. »
Et Octavio Paz fait justement remarquer que cette phrase s'est révélée, dans sa seconde partie, singulièrement fausse. Michaud a transcendé son projet initial. Même si c'est par la grâce d'une réaction biochimique, l'exploration s'est trouvée débouchée dans des régions transhumaines. Serait-ce à dire que Michaud oublie en chemin son autre projet, son autre démarche?
L'illuminé, le révélé, aurait-il trahi l'homme de recherche? L'expérimentateur conscient se serait-il converti? On sait qu'il n'en est rien. Du langage de ses œuvres, en premier lieu, il faut dire combien il résout au niveau de la création littéraire les contradictions de l'expérience qu'il communique.
Raymond Bellour discerne quatre usages de la parole au moins dans les livres qui nous occupent. Langage critique neutre, celui des notes. Langage critique habituel pour le commentaire des expériences. Langage fictionnel qui essaie de retrouver la réalité vivante des hallucinations. Langage vérité, enfin, de la drogue, placé en italique parallèlement au texte ou figurant sur des pages entières.
Je vais de l'avant, vite. Des pelles volent. Puis des cris, je me dégage. L'instant d'après, Naples. Cette pensée merveilleuse, mais quelle était donc cette pensée? Soudain, précipice, en bouillonnant une eau torrentielle cascade dans le fond d'un canyon, vive, vive. Vivacissime. Tenant fortement un grand anneau métallique, je serre, je serre. Je... Pensée. Voyons. C'était avant. Mais quelle était donc cette pensée? Paolo, Paolo. Crié d'une voix bordée de rouge. Oubli, oubli à grande vitesse. Par terre, des fagots préparés, quel tas! Mais qu'est-ce qui arrive? Plus de fagots, seulement reste la phagocyté. Inouï. Allegro vivace. Preste, prestissime pensée sous moi. Tiens, je connais ce chemin-ci. Un chemin si particulier, et pourtant. Suis soulevé, élévation, élévation extrême, élévation folle. Tennis des synonymes. Je vois. J'amasse des ressemblances. Je vois. Je rouvre des différences. Formidable. Quels échanges. Ces mots, voyons, lesquels étaient-ce prononcés d'une voix si pincée?
Avec connaissance par les gouffres, Michaud s'installe au cœur de la folie, du mystère de la folie.
Pour définir cette entreprise, Stéphane Lupasco écrivait « Devenir fou pour quelques heures par les drogues, afin de connaître le fou et du même coup celui qui ne l'est pas, tels sont le but et la méthode que se propose Henri Michaud. »
Dans toute folie, il y a 20 folies. La folie, dans ses accès surtout, est une sorte de tout à la fois qu'on avait en soi en vrac et qui sort, qu'on ne peut plus tenir serré, dirigé, et qui s'éparpille librement. On ne la voit plus guère, on ne la voit plus longtemps. Les récentes médications empêchent les aliénés d'aller jusqu'au bout de leur aliénation. Ils y ont perdu leur libération à eux. Même lorsqu'on ne peut vraiment les guérir, on les amortit. Étrange, terne, améliorée, que l'on rencontre à présent dans les asiles ou au dehors. Fous, frustrés de leur folie.
Dernière analyse, c'est tout de même la seconde démarche, celle de l'observateur plutôt que du patient, de l'expérimentateur en alerte plutôt que de l'être saisi, figé dans sa transe. C'est cette seconde démarche qui triomphe.
Tout au long de cette longue passion, Michaud a maintenu, sinon la distance clinique, du moins la conscience de l'utilité fonctionnelle de son aventure.
Pas seulement maladie, l'hystérie peut aussi faire la leçon. Pas elle seulement, la conscience. Il faut avoir pris une drogue pour savoir comme c'est peu, comme c'est rare, comme c'est facultatif, comme c'est peu indiqué, comme ça se met en travers, comme c'est peu nous, et encore moins notre bien. Conscient qui nous lie les mains, qu'il faut savoir dépasser pour une conscience seconde. Conscient tantôt à endormir à contre-temps, tantôt à réveiller à contre-temps. Conscient qu'il faut apprendre à lâcher quand il se montre et à ranimer quand il disparaît. Que surtout dans les états exceptionnels, des états parapsychiques ou presque miraculeux, il ne faut pas laisser disparaître. À moins que de se contenter là-dessus du savoir d'homme sans doute extraordinaire, mais aux idées préconçues, pré-reçues, pré-dirigées. Conscient, enfin, qu'il laisse échapper à peu près tous les mécanismes du mental normal, pourtant singulier, extraordinaire. Méconnu, que si on tient à les détecter, il va donc falloir prendre en traître et avec l'artillerie qui convient.
La drogue, dira-t-il ailleurs, est plus révélatrice que créatrice. Et si l'homme normal contient déjà en lui ce que la drogue révèle seulement, ne peut-on lui appliquer ces mêmes méthodes d'investigation, d'expérimentation, d'exploration que Michaud a découverte par le difficile travail qu'il a effectué sur lui-même. Voilà la nouvelle recherche. Les dernières études de Michaud viseront à éclairer la psychologie de l'homme quotidien, ce qu'il appelle le merveilleux normal.
Je me propose, avait-il dit, d'explorer la médiocre condition humaine.
Non pas revenu à son point de départ, mais dans le mouvement de la même pensée prospective, un pas plus avant.
Pensée. Pensez toujours en incursion.
Je voudrais dévoiler le normal. Avant tout, un opérateur.
La communauté radiophonique des programmes de langue française vous a présenté une coproduction du troisième programme de la RTB et de l'ORTF France Culture. Henri Michaud, une émission de Arlette Dupont et Henri Vaume, réalisée par... par Raoul Auclair. Aujourd'hui, Savoir, musicienne de la vérité, avec Roger Blin, Michel Bouquet, Pierre Delbon, Philippe Mercier, Philippe Lodenbach et Françoise Fechter. Prise de son, Françoise Didier et Pierre Brault. Assistant, Paul Bram.
C'était la quatrième et dernière émission, diffusée la première fois le 11 novembre 1965. I wake up some mornings, thank God not as often as I used to. Slow and heavy from dreams with you. You found a way back in, once again my long lost friend. Funny to see that after all these years I miss you the same. So I drag myself to the corner cafe, and for a second I see you there, like in the good old days. And I wonder what you're doing, what are you up to these days? I sometimes wish you would call me, but then I wouldn't know what to say. And I see you in every cab that goes by, in the strangers at every crossroad, in every bar. I see you in every cab that goes by, in the strangers at every crossroad, in every bar. It takes a glass or two for it to settle down, for your shadow to stop following me around. I find myself walking back to all the places we knew, dreaming and wishing to somehow run into you. And of course I wonder, does it happen to you? Does my ghost ever come looking for you? 'Cause all that's left now are my dreams and memories. But I'm glad you came through my life and put your stain on me. In every cab that goes by, in the strangers at every crossroad, in every bar. And I see you in every cab that goes by, in the strangers at every crossroad, in every bar. Strangers at every crossroad, every bar.